Vous êtes les bienvenus à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Mais les titres pour commencer. Le 30 mars, c'est aujourd'hui, les détenteurs des titres carrés miniers qui ne se seraient pas acquittés de leurs obligations vis-à-vis du Trésor courent le risque de perdre leurs droits et être soumis à des pénalités. C'est un appel conjoint de la DGRAD et du cadastre minier. L'administration publique de la province du Kasaï oriental ne manifesterait aucun intérêt pour le projet PADIR. C'est l'inquiétude manifestée cette semaine par le coordonnateur de ce projet, financé par la Banque africaine de développement. Tous les projets de la province envoyés à la Banque africaine de développement pour financement ne sont toujours pas prêts à 2 semaines de l'échéance. Vous entendrez le coordonnateur provincial de ce projet dans votre magazine. Le secteur des télécommunications, deuxième grand contributeur au trésor public en RDC, compte parmi les secteurs porteurs de richesses. Mais 10 ans après la promulgation de la loi sur les télécoms, les textes présentent aujourd'hui des insuffisances qui demandent une relecture. C'est Maître Albert Mbaonewa Kieri, auteur de l'ouvrage « Droit congolais des télécommunications, état des lieux et analyse » qui l'a dit dans une interview à Écho d'économie cette semaine. Nous ferons également un petit tour au village de la francophonie où se tient depuis le week-end dernier la 5e foire de l'entrepreneuriat féminin. Un invité pour commenter l'actualité de la semaine sur Radio Okapi, il s'appelle Monsieur André Moloto. Il est maître des conférences à l'Université protestante au Congo. Il est au téléphone. Monsieur André Moloto, bonjour et bienvenue à Panorama économique.
Bonjour, bonjour Monsieur Daniel.
Et devant ce micro, Jocelyne Moussa Oponte et Daniel Tampinzoni pour vous retracer le retour sur l'actualité économique de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
Merci de nous écouter sur votre radio, la radio de la paix, le premier dossier de la semaine. La DGRAD attend des détenteurs de titres carrés miniers, près de 28 millions de dollars américains à l'échéance du 30 mars, et c'est déjà aujourd'hui, Jocelyne.
Et ce montant représente les droits superficiels annuels par carré. La DGRAD et les cadastres miniers avaient conjointement informé les propriétaires des carrés miniers qu'ils avaient jusqu'au 30 mars pour s'acquitter de leurs obligations. Pour M. Imama, cadre à la direction de recettes domaniales de la DGRAD, tous les paiements s'effectueront dorénavant à la BIAC pour une meilleure traçabilité. On l'écoute.
Nous voulons annoncer dans ce communiqué que le titulaire détenteur de titres miniers, d'exploitation ou de carrière ou encore de permis de recherche doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard le 30 mars. Ils doivent payer le droit superficiel annuel par carré. À ce titre, ils doivent payer au plus tard le 30 mars de ce mois pour éviter qu'ils soient pénalisés. La pénalité dans ce cas d'espèce, c'est quoi? C'est la déchéance. Et la déchéance du côté des CAMI et au niveau de la DGRAD, on doit leur appliquer les amendes de pénalité telles que prévues dans la loi qui régit les recettes non fiscales.
Alors, combien d'assujettis attendez-vous cette année?
Ouh, ils sont très très nombreux, des centaines de détenteurs de titres miniers. Mais au niveau de l'argent, nous attendons plus ou moins 28 millions de dollars. Il y a des titres de perception qui ont été retirés. Ces jours, nous sommes à plus ou moins 27 768 501 dollars. L'État attend cet argent dans sa caisse.
Pouvons-nous savoir à quel taux se paye cette taxe?
Ça varie suivant les nombres de carrés que vous détenez, souvent la nature de titres que vous avez, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le permis de recherche, l'autre peut avoir le permis d'exploitation, l'autre peut avoir le permis pour l'exploitation des carrières, etc., etc. En fait, ça varie.
Quelles sont les modalités donc de paiement prévues?
Il y a le préposé de la DGRAD qui sont affectés au niveau du CAMI. Ensemble avec le service technique des CAMI, les services de CAMI émettent la note de débit, et le service de la DGRAD émet le note de perception. Et ici, il y a un mécanisme assez spécial. Normalement, c'est la DGRAD qui devrait distribuer les notes de perception. Mais pour ce cas, on a chargé les CAMI. comme c'est le CAMI qui est en contact d'une manière permanente avec les opérateurs, ces opérateurs ont l'obligation de passer au niveau du CAMI et retirer les titres de perception. Après avoir retiré, bon, ils vont payer. Voilà le mécanisme qui a été prévu pour ça. Et nous ne voulons pas que demain les opérateurs viennent nous dire non, climat des affaires, etc., etc. Non, le climat des affaires commence d'abord par le paiement de ce qui est dû à l'État. Ils doivent être des entreprises citoyennes.
Le climat des affaires commence d'abord par s'acquitter de ce qui est dû à l'État. C'est ce que dit le monsieur de la DGRAD.
Monsieur Imama.
Voilà, monsieur Imama, qui est chargé des recettes domaniales au sein de la DGRAD. Monsieur Moloto, c'est vous qui commentez l'actualité avec nous. Une autre échéance, c'était hier, le 29 mars, avec la DGI, qui demandait également aux opérateurs économiques de venir déposer leur déclaration. Et aujourd'hui, c'est la DGRAD. On sent vraiment que l'État ouvert ses vannes pour rentrer les recettes.
Ben, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens payent ce qu'ils doivent à l'État pour que celui-ci ait les moyens de sa politique. C'est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne le carré minier, le droit, c'est un dossier qui justifie, comme vous voyez, la révisitation projetée du code minier, dont les effets ne sont pas très positifs sur notre économie. En ce qui concerne la DGI, c'est tout à fait normal. Il faut que les vaches sujettes aux impôts payent. Voilà.
Je ne sais pas, monsieur Moloto, si vous nous avez suivis cette semaine, je crois que c'était mercredi, où un opérateur économique disait qu'ils n'ont pas encore eu le temps de clôturer le bilan 2012. Il y a encore beaucoup à faire. Et un autre qui dit, bon, vous savez, on est en RDC, même si on ne paye pas le 29, on viendra après le 29 et on négociera. On est habitué à négocier et c'est comme ça la RDC.
Mais bien sûr, il vous a donné, parce qu'on leur a donné cette possibilité de négocier, de reporter, de... Non, mais c'est la conclusion. Bon, on va voir ce que l'État va faire.
Et vous pensez que ça doit continuer comme ça?
Je ne pense pas du tout. Non, l'État a besoin des moyens pour mener sa politique.
Mais d'un autre côté, on a senti que la sensibilisation était quand même forte auprès des opérateurs économiques. Donc les régies financières ont vraiment sensibilisé les contribuables, peut-être dans les soucis d'atteindre les assignations leur données par le gouvernement.
Oui, ben, c'est bon. Donc il n'y a rien de mauvais à ça, mais il faudrait quand même aussi que le gouvernement soit transparent, qu'il nous dise, après cette date, la date d'aujourd'hui, ce qu'il y aura.
Qu'on nous donne le bilan des recettes et les affectations.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire de ceux qui ne vont pas répondre à son appel?
On vous garde pour la suite de Panorama économique pour aborder le deuxième dossier. Le coordonnateur du projet d'appui au développement des infrastructures rurales en province du Kasaï oriental se plaint. Il se plaint du manque d'intérêt de la part de l'administration publique provinciale.
Rien ne serait encore fait. Aucun projet de la province à financer par la BAD n'est encore prêt à 2 semaines seulement de la date butoir, a fait savoir le coordonnateur provincial du PADIR, qui doit envoyer d'ici le 15 avril à la Banque africaine de développement tous les projets qui sont retenus en province. Cependant, 3 divisions provinciales ne sont pas encore prêtes avec leurs projets. Ces divisions n'ont pas indiqué le bâtiment à réhabiliter ou le terrain sur lequel des constructions peuvent être érigées. Christian Kamuziko revient sur la conséquence que cette léthargie peut entraîner. Il est au micro de François Tchibengi.
L'administration devrait nous présenter les bâtiments à réhabiliter. C'est pour plus ou moins 200 000 $ l'appui qui est accordé à l'administration pour l'équipement de leurs bâtiments. Réhabilitation et équipement. La division du genre, la division de l'environnement et la division du plan qui doivent bénéficier de ces bâtiments. Donc, il leur revient de nous présenter les emplacements où les bâtiments doivent être érigés, ou les bâtiments qui doivent être évalués afin que les spécifications techniques, les devis estimatifs puissent être élaborés. D'ici le 15 avril, si ce n'est pas fait, nous allons envoyer les travaux qui sont fait pour les autres. C'est-à-dire que pour cette année, nous lancerons les travaux de tous les autres partenaires. Et pour les divisions provinciales, on pourra y revenir qu'à l'arrivée à mi-parcours. Ils vont rester d'abord dans leurs bâtiments où ils sont actuellement jusqu'en 2015, parce que tous les travaux qui ne seront pas lancés maintenant pourront être récupérés à l'arrivée à mi-parcours en 2015. C'est ça la conséquence, c'est qu'ils vont être retardés de 2 ans.
Du retard quant à la mise en ordre des dossiers qui doivent être soumis à la BAD. Ceci renvoie encore à une question de la non-capacité de la RDC, M. Moloto, à absorber les crédits qui sont mis à sa disposition.
Bien sûr, vous avez dit le mot. On sollicite un crédit, on vous l'octroie, mais il n'y a pas la capacité d'absorption de ce crédit. Bon, cela est fonction de la capacité des hommes. Non, mais la capacité des hommes à confectionner le projet, à l'évaluer, la rentabilité économique, financière et tout, parce que ce sont des projets bancables. La BAD est une banque. Bon. S'il n'y a pas capacité d'absorption de crédit, bon, les projets ne se réalisent pas, il n'y a pas de développement. Donc, cela fait quand même appel à une chose, il faut qu'il y ait formation, renforcement de capacités des personnels administratifs de cette province.
Est-ce que ce sont des personnes capables d'élaborer des projets qui manquent en RDC?
Mais parfois oui, élaborer le projet, c'est pas un problème. Il faut aussi que ces projets montrent la rentabilité économique, la rentabilité financière de ça et la rentabilité sociale pour que ce projet soit agréé. C'est pas facile, madame.
Mais je pense que le projet a été déjà agréé. Il est maintenant question que l'administration publique indique à quel endroit on doit lui ériger des bâtiments, quels sont les bâtiments à réhabiliter, où se trouverait le terrain sur lequel on bâtirait de nouvelles constructions. C'est un peu ça, ça traîne.
La lourdeur dans l'administration.
Voilà.
Mais la lourdeur est due à la compétence. Quand on est compétent, on est bien formé, il n'y a pas de gros problèmes.
Troisième dossier de la semaine, nous allons parler du secteur des télécommunications, un secteur aux énormes potentialités, mais qui n'attire pas jusque-là l'attention des gouvernants. Ça, c'est Maître Mbaonewa Kieri qui le dit. Il est auteur de l'ouvrage « Droit congolais des télécommunications, état des lieux et analyse critique ».
Dans cet ouvrage, l'auteur demande au gouvernement de solliciter la relecture de certaines dispositions de la loi sur les télécoms promulguées depuis 2002, des dispositions qui présentent des lacunes et incohérences avec la pratique sur terrain. On écoute Maître Albert Mbaonewa Kieri. Il a été interviewé par vous, Daniel.
Oui, c'était cette semaine.
La première faiblesse ou le premier problème qui s'est posé dans la législation actuelle en vigueur, c'est qu'il y a une inadéquation entre les textes lui-même qui a été conçu en 2002 et l'état des lieux de la situation du pays. On a confié par exemple des responsabilités à l'OCPT alors qu'il n'était pas en mesure sur le plan technique financier de jouer un rôle important dans les secteurs. Ça fait 10 ans que ça fonctionne pas.
C'est ce qu'il faut changer.
Oui, j'ai pris seulement un exemple. Et les faiblesses, il y en a beaucoup par rapport à des lacunes qui sont dans les textes. Il faut réécrire certaines dispositions légales. Lorsqu'on fait un état des lieux, on se rend compte que pendant 10 ans, on fait l'évaluation de l'application des dispositions d'un texte de loi, où il faut l'améliorer et changer par rapport à la dynamique. La question des nouvelles technologies, qui est une question assez intéressante et porteur aujourd'hui, elle n'est pas réglée dans les textes.
Est-ce que dans votre étude, vous avez pu avoir une idée sur le chiffre de ce que rapporte le secteur de télécommunications aujourd'hui, et que si on améliorait, on peut arriver à X montant?
Je sais seulement que le secteur télécom aujourd'hui, en termes de rentrée fiscale, est deuxième après les mines. Même déjà au niveau des mines, vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes, on devait faire un peu plus. Cela n'échappe pas également au secteur de télécom. Ce sont les tares aujourd'hui, le niveau de la gestion fiscale des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, je crois que les dernières statistiques en termes de taux de pénétration, on est autour de 20%. Donc on est encore ce qu'on appelle un secteur émergent. On n'a même pas atteint 50%. Donc il y a des possibilités d'avancer. Si le revenu est important, mais les opérateurs peuvent aller à 50%. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des opérateurs qui arrivent, parce que le secteur est porteur et encore le marché est important.
Maître Kiri, Monsieur André Moloto, le secteur des télécommunications, comme dit l'auteur de cet ouvrage, est un secteur porteur parce qu'il vient en deuxième position après le mine, mais n'attire pas encore l'attention des autorités. Il n'y a pas encore assez d'ordre dans ce secteur-là. Les textes présentent des lacunes et des incohérences et ça ne permet pas à l'État de renflouer ses recettes dans ce secteur-là.
Mais ce dossier, c'est un dossier type qui montre les méfaits de la corruption sur le développement de notre pays, hein. La corruption tant dénoncée. Hein, nul n'ignore que les infrastructures contribuent à l'augmentation de la productivité de l'économie, hein, que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures de l'énergie comme l'électricité, et surtout des télécommunications pour lesquelles ils nous équipent. Ils doivent venir en appui à la production. Alors, l'augmentation de la productivité dépend de l'investissement productif. C'est ce que, je crois, les Sud-Coréens nous ont donné, là, et du marché. Bon. Alors, l'accès à l'Internet, le fibre optique, là, et son objectif est de faciliter l'accès à l'Internet au plus grand nombre des Congolais, des agents économiques. Pourquoi? Surtout pour recueillir les informations sur les marchés et trier les quantités. Là, voilà maintenant, par exemple, je prends un exemple comme ça, le riziculteur de Bumba, maintenant, grâce à l'Internet, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, connaissent au jour le jour le prix du sac de riz. Ici, à Kinshasa, mais avant, il y a 10 ans, c'était impossible. Hein, il y avait la folie et tout. Bon, alors, tout ça, ça motive la production, connaissant le prix, et permet à la production à s'adapter aux besoins du pays. Donc, c'est un élément très important. Bon,
vous partagez l'avis de l'auteur qui pense qu'on ne fait pas encore très attention. Pourtant, ce secteur est porteur. En quoi il est porteur, les télécoms?
Mais il est porteur de croissance. C'est comme justement après
les mines.
C'est ce secteur des télécommunications qui vient en deuxième position. Ce n'est pas tellement des histoires. C'est un problème de corruption. On est parti de 9 000 à 6 000 à 3 000. Combien, vous vous rappelez même, un des responsables a été jeté à Makala. Combien de ministres ont été remerciés, ceux qui sont passés par le NPTZ, à cause ou bien en raison de ces deux. Donc, le ministre actuel, le gouvernement actuel n'a qu'à s'y pencher, reporter, on dirait qu'on ménage certaines choses.
Voilà, reporter, c'est-à-dire la RDC traîne toujours les pas basculés vers la fibre optique. Effectivement, on est aujourd'hui 30 mars, on nous l'avait promis pour avant fin mois de mars, mais en tout cas jusque-là, on doit encore attendre la deuxième quinzaine du mois d'avril de cette année.
C'est qu'il y a un problème.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance... Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Autre info de la semaine en bref, lundi, nous parlions du chef d'antenne de la DGRA de territoire de Mambasa qui interdisait la perception des frais techniques exigés par certains services générateurs de recettes aux opérateurs économiques.
Il a dit dans une correspondance adressée à l'administrateur du territoire de Mambasa, entité administrative située à 168 km au sud de Bounia en Ituri. Adio Dratré parle d'une somme forfaitaire variant entre 50 et 200 $100 en plus des taxes habituelles. Pour lui, ces frais dits techniques n'ont aucune base juridique.
Hausse du prix des produits manufacturiers dans la ville de Chicapa. Nous sommes à 265 km à l'ouest de la ville de Kananga, dans les Kasaï occidentales.
Pour illustration, un sac de farine de froment de 50 kg se vend à 75 000 francs congolais contre 55 000 francs il y a 5 jours. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, Chicapa, attribue cette situation à la diminution des stocks des produits manufacturés auprès des opérateurs économiques. Une diminution qui s'explique par l'immobilisation des camions transportant ces produits sur le pont Chicapa suite à sa dégradation.
La cellule de l'amélioration du climat des affaires et des investissements au Kasaï oriental s'attelle à vérifier la légalité des taxes, impôts et redevances dues à l'État et aux entités territoriales décentralisées, mais la société civile de son côté exige d'abord un travail de fond entre les services taxateurs et les opérateurs économiques.
À Mbandaka, dans l'Équateur, les vendeurs de sable se plaignent et accusent la division des mines d'avoir augmenté le taux de la taxe sur leur activité sans les en aviser. Cette taxe est passée de 180 francs congolais par mètre cube à 500 francs. Les vendeurs de sable se demandent si la décision de cette division a abrogé l'arrêté du ministre des Finances qui fixait le taux à 180 francs congolais par mètre cube.
Les administrateurs des foyers miniers et les creuseurs d'or du territoire de Banalia, à 128 km au nord de Kisangani, dénoncent la tracasserie dont ils font l'objet de la part des militaires des FRDC.
La plupart d'entre eux sont torturés et expulsés des carrières pour n'avoir pas exécuté au délai fixé les opérations de vente des marchandises leur imposées par ces militaires. Une opération qui consiste à échanger des cigarettes contre des grammes d'or. L'auditeur militaire des garnisons de Kisangani promet de mener une enquête à ces sujets.
Nous allons à Kindu. Le programme intégré de l'agriculture au Maniema Piram a évalué mercredi ses actions dans 4 territoires de la province et à Kindu Centre.
C'était au cours d'un point de presse. Il en ressort, selon Célestin Bahandi à Limassi, que le Piram a remis 50 tonnes de semences du riz Nerika et de boutures saines de manioc aux agriculteurs. Il a ajouté aussi la réhabilitation de routes des dessertes agricoles dans le bassin de Pangui où a été formé le comité local d'entretien de route, la formation des chefs d'équipe dans le bassin de Kimbombo. Grâce au financement de Piram, l'office des routes a pu réhabiliter 18 des 25 km retenus sur la route nationale Kindu-Kasongo.
Puis la plateforme des transporteurs du Congo, Platraco, basée à Butembo, lance un cri d'alarme face à la multiplicité des taxes sur la nationale numéro 4.
Dans son communiqué de presse de ce mercredi, elle déclare avoir recensé une cinquantaine de barrières érigées illégales, érigées de la police, les services de sécurité, le péage de route et bien d'autres. Cette multiplicité de taxes touche également les routes de Beni Bounia, Beni Mambasa. À chacune des barrières, le conducteur paye entre 5 et 50 dollars américains par service, rappelle ce syndicat des transporteurs. Il demande donc au gouverneur du Nord Kivu et à celui de la province orientale de démanteler ces barrières illégales.
Panorama économique, reportage.
La cinquième édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin attire moins de clients et de visiteurs par rapport aux éditions précédentes. C'est ce qu'ont affirmé à Radio Capi mardi certaines femmes d'affaires trouvées sur place au village de la francophonie où se tient cette foire. Selon elles, le public congolais n'a pas été suffisamment préparé à cette foire qui a pour objectif la promotion de la femme. Mais celles qui sont dans la restauration affirment faire des bénéfices allant jusqu'à $100 par jour. Paul Matendo, reportage.
Ici, au village de la francophonie où s'organise cette foire, on peut voir dans les différents stands plusieurs articles tels que les œuvres d'art, les pannes, les produits cosmétiques, les babouches, les produits alimentaires et autres. Mais seulement ces stands reçoivent très peu de clients. Les femmes d'affaires qui ont exposé leurs produits n'hésitent pas à établir une comparaison entre cette cinquième édition et celle des années précédentes.
Les gens viennent, mais pas comme l'année passée. Il n'y a vraiment pas d'engouement ici au stade. Il y a un problème. On ne voit pas tellement depuis que nous sommes là.
D'autres commerçantes estiment que les organisateurs devraient sensibiliser le public congolais à la tenue de cette foire de l'entrepreneuriat féminin.
Bon, gouvernement, c'est la campagne. C'est la campagne, ma casse, elle va te taler. Il faut que la camagnon, la boule à poil, la maman, ils allaient. Elle me sait, maman, ils allaient. Ils allaient, ça donne la vie à ma maman. Il faut pas tout mon avis à ma maman. Le bambou, comme je suis, le côté de ça, nous, vous, ma camionne, les filles. Parce que bichot, vous allez négliger.
Pour celles qui sont dans le domaine de la gastronomie, c'est l'occasion de faire des bénéfices comme cette femme d'affaires qui nous parle de ses recettes journalières.
On est là depuis longtemps, mais pour à manger, on a préparé qu'hier. Mais ça fonctionne très bien. C'est hier qu'on a commencé et on a vendu presque 100 dollars. Maintenant, là, nous avons des clients et beaucoup nous recevons les clients à partir de 18 heures.
La foire de l'entrepreneuriat féminin n'a plus que 4 jours avant de refermer ses portes.
Voilà, ça c'est la situation qui a prévalu mercredi à la 5e foire de l'entrepreneuriat féminin qui se tient au village de la francophonie. C'est ici à Kinshasa, dans les installations du stade des martyrs. Monsieur André Moloto, nous terminons Panorama économique par là. Les femmes se réunissent et présentent au public leurs activités, mais des activités qui n'attirent pas encore assez de monde parce qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation autour de cela et les femmes s'en plaignent un peu.
Oui, bon, écoutez, l'absence d'entrepreneurs innovateurs est considérée comme une des causes du sous-développement. Donc l'entrepreneur est une ressource rare dans un pays sous-développé comme le nôtre. Mais alors, ce genre d'initiative est à encourager, surtout que la femme joue un triple rôle dans notre société. Elle est à la fois mère, épouse et nourricière. Mais s'il n'y a pas d'enthousiasme, c'est parce que on voit que le classement de notre pays dans la publication de la Banque mondiale Doing Business n'est pas fameux. Et puis en deuxième lieu, regardez toutes les tracasseries là, que les entrepreneurs subissent. Vous venez d'en parler. Bon, l'inaccessibilité au crédit, des tas de choses qui font que bon. L'initiative privée n'est pas encouragée. Hein? Bon, ça n'incite pas à participer à ce genre de manifestation.
Mais ça ne vous empêche pas aussi, en tant que client, de faire un tour, voir ce que les femmes font. Vous êtes à Kin, il vous est déjà arrivé de faire un tour de ce côté-là?
Non. Mes étudiants de l'économie de développement, surtout une étudiante qui fait son mémoire en deuxième licence sur le rôle de la femme dans le développement, il a participé, j'ai discuté avec elle. Elle a tiré de bons enseignements.
Comme quoi?
Bon, comme je disais, ceci, c'est que bon, on promet des choses, le gouvernement leur promet beaucoup de choses, mais ils ne voient rien arriver encore. Et la mentalité, notre mentalité des hommes congolais, nous avons une espèce de mépris aussi sur la condition féminine.
C'est sur cette note-là que nous allons refermer Panorama économique de cette semaine. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté votre attention. Merci surtout à vous, monsieur Moloto, de nous avoir consacré ces 30 minutes d'analyse et de commentaires dans Panorama économique. Nous espérons vous avoir dans les jours qui viennent et surtout que ce n'est pas la première fois. Bon week-end à vous, sinon partout où vous vous trouvez. Nous vous remercions de votre fidélité à Radio Okapi. Très bonne suite de programme. Bon week-end à vous tous.